France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est en tous les cas, par rapport à d'autres possibilités données aux minorités, je pense à la saisine du Conseil constitutionnel, naturellement une forme de troisième tour au-delà de la démocratie représentative et un risque d'affaiblissement de cette démocratie représentative.
Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité de Nicolas Demorand hier sur Inter. Il y a maintenant les signataires. Le Conseil constitutionnel a donc validé la proposition de loi qui permet d'organiser un RIP, un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut maintenant les signatures d'au moins 4 700 000 électeurs pour parvenir à enclencher l'arrêt définitif du processus. Quand vous entendez Gérard Larcher dire « c'est un risque d'affaiblissement de la démocratie représentative », il a raison, Gilles.
C'est assez surprenant parce que qui a introduit la procédure de référendum d'initiative partagée dans la Constitution? C'est Nicolas Sarkozy. Quel est le parti qui s'est associé à cette procédure de référendum sur la privatisation d'ADP? Ce sont les Républicains, et notamment les Républicains au Sénat. Donc c'est surprenant et surtout je crois que c'est discutable. Parce qu'autant on peut s'opposer à la substitution d'une procédure de démocratie directe à la démocratie représentative, là il y a une articulation puisque l'initiative est une initiative parlementaire à laquelle doit s'adjoindre de nombreuses, vous l'avez évoqué, signatures des citoyens. Et en fait, le problème est moins l'existence de cette procédure que sa difficulté.
Natacha.
C'est surtout que cette réflexion de Gérard Larcher nous fait toucher du doigt un des problèmes cruciaux aujourd'hui, la question de l'efficacité de la démocratie représentative dans son état actuel pour représenter la volonté populaire.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que, par exemple, les privatisations qui ont eu lieu sous Lionel Jospin, la privatisation des autoroutes, qui est un scandale absolu, tout cela a fait partie des éléments qui ont été mis en avant, notamment sur les ronds-points pendant la crise des Gilets jaunes. Parce qu'il y a là le sentiment pour les citoyens qu'on les dépossède d'une part du bien commun et qu'on ne leur demande pas leur avis.
Et alors justement, référendum pourrait être organisé, vous applaudissez ?
Ce référendum n'aurait jamais été porté par des députés s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes et si la question des autoroutes n'avait pas ressurgi à cette occasion-là. Donc on ne peut que se réjouir que certains députés se souviennent qu'ils sont censés représenter les citoyens. Mais quand des députés n'utilisent pas les armes qu'ils ont pour représenter et mettre en avant la volonté populaire, alors il y a un problème et un risque de décrédibilisation de la démocratie représentative.
Gilles.
Oui, enfin, il ne faut quand même pas s'emballer non plus, parce que là...
Le référendum n'aura probablement pas lieu.
Ah non, bien sûr.
Évidemment que le référendum n'aura pas lieu. Et il n'aura pas lieu, d'abord parce que 4 717 000 signatures, c'est ça le seuil qui est requis. Jamais aucune pétition n'a même recueilli la moitié de ce score-là. Mais au-delà, même si c'était le cas, je le redis, une fois que la procédure est validée par le Conseil constitutionnel, que les citoyens ont signé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Parlement a 6 mois pour se saisir du texte, faute de quoi il y a un référendum. Autant dire que ce référendum n'aura jamais lieu.
On est bien d'accord, mais c'est cela qui est le plus dingue. C'est-à-dire que cette procédure est totalement verrouillée pour faire en sorte de ne pas mettre en danger la démocratie représentative et on va dire son absence de représentativité parfois. Donc les politiques n'ont aucune raison d'avoir peur. En revanche, il faut se méfier. C'est-à-dire que sur un sujet comme celui-là, qui est devenu un sujet éminemment symbolique, les élus devraient se rendre compte qu'il faut écouter la volonté des citoyens.
Un mot encore avant de passer aux européennes. C'est un enjeu éminemment symbolique ou éminemment politique pour vous, Gilles? Demander au peuple éventuellement son avis sur la privatisation des aéroports de Roissy et d'Orly.
C'est symbolique, mais c'est évidemment politique puisque c'est un choix d'orientation et un choix dans lequel il y a une dimension stratégique sur le rôle de l'État et l'aménagement du territoire. Donc ce n'est pas que symbolique. J'ajoute que si il y avait plusieurs millions de signatures qui étaient recueillies, peut-être que ça ne déboucherait pas sur un référendum, mais dans le rapport de force, ça aurait du poids.
Natacha.
Quand je dis que c'est symbolique, je veux dire par là que cela résume à peu près toutes les dérives que l'on reproche aux décisions politiques depuis des décennies. C'est-à-dire le fait que l'État se départit de ce qui appartient à la puissance publique, de ce qui lui permet d'agir et n'a aucun sens de la préservation de la souveraineté. C'est cela qui se ressurgit sur la question des aéroports.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Emmanuel Macron a choisi de ne plus être président de la République, mais d'être président de parti et en l'occurrence chef de campagne. Il transforme donc volontairement et de son fait cette élection européenne en référendum pour ou contre lui.
C'est un référendum bien sûr pour ou contre Macron, mais parce que la politique qu'il mène au niveau français n'est pas déconnectée de la politique qu'il mène au niveau qui est menée au niveau européen.
Vous avez reconnu évidemment la voix de Marine Le Pen et celle de Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes. On est à 15 jours seulement avant le scrutin du 26 mai. C'est une drôle de campagne. On a l'impression qu'aucune liste ne s'impose dans les sondages. On va en parler dans un instant. Mais certains voudraient en faire un référendum pour ou contre Macron. Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est comme ça que ça va se terminer, Natacha?
Il y a des instrumentalisations politiques de tous les côtés. Marine Le Pen se saisit de cela en effet pour en faire un référendum pour ou contre Macron, mais elle a beau jeu d'expliquer que c'est Emmanuel Macron qui joue ce jeu aussi. C'est-à-dire qu'il tente dans une espèce de stratégie de sauvetage, il y a le feu au lac, donc que fait-on? Ben, on ressort la carte préservation de la démocratie contre le risque populiste, le risque du chaos. Réellement c'est un cadeau à faire à l'Union européenne et aux citoyens qui devraient avoir conscience des enjeux européens que de positionner le débat là-dessus.
Gilles,
dire que c'est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Emmanuel Macron, la liste de La République En Marche, n'a pas 50% des voix, il doit démissionner? C'est ça la logique. Et donc on est sur une succession d'enjeux nationaux qui n'ont pas beaucoup de sens. L'enjeu le plus probable est de savoir, sur l'enjeu national, qui va arriver en tête. On pourrait dire que l'enjeu réel plus important au niveau national et savoir si les partis qui soutiennent, disons, le cadre européen depuis sa création sont majoritaires ou pas. Mais je veux dire quel est pour moi l'enjeu aujourd'hui de cette élection. Et sans doute qu'on n'aurait pas pu dire ça il y a un mois ou il y a deux mois. Avant de le formuler, je prends mes précautions. Vous allez, ne me prenez pas.
Nous sommes tout oui.
un illuminé. Mais c'est après un examen rigoureux des chiffres. L'enjeu est de savoir si les socialistes, les sociodémocrates ne peuvent pas gagner cette élection au Parlement européen.
Hein?
Oui, je vous vois.
C'est un illuminé.
Je vous vois ouvrir des yeux tout ronds. C'est improbable. On n'aurait jamais pu dire ça il y a quelques semaines. Il était acquis que le Parti populaire européen, les conservateurs, auraient la majorité. Il s'est passé deux choses depuis. D'abord, il y a eu un rebond électoral des sociaux-démocrates dans les élections. Il y a eu deux élections qui se sont passées il y a quelques semaines, en Finlande, en Espagne. Les sociaux-démocrates les ont emportés et la droite s'est affaissée. Il va y avoir des élections au Danemark, c'est à peu près la même situation. Et il y a un deuxième élément que cette semaine, que personne n'a relevé, c'est le retour des Britanniques. Les Britanniques vont voter au Parlement européen.
Oui, ce qui est fou.
Les conservateurs britanniques ne sont pas affiliés au Parti populaire européen. Et les travaillistes britanniques sont affiliés au Parti socialiste européen. Quand on regarde ce qu'est le rapport de force aujourd'hui, en prenant l'ensemble des sondages des 27 et même des 28 pays, vous avez des 27 pays, ça fait 180 sièges à peu près pour le PPE, 160 sièges à peu près pour le PSE. Si on ajoute les Britanniques, eh bien, ce qui paraissait impossible ne l'est plus.
Ce qui était impossible aussi, c'est que des Britanniques emportent deux finales de Coupe d'Europe au foot, et pourtant, c'est ce qui va se passer.
Oui, enfin,
c'est ça l'enjeu,
cela
c'est celui
dit,
que vient de dire Gilles, Natacha.
Alors, de fait, si on regarde réellement le rôle de cette élection, c'est bien ça l'enjeu. Nous sommes d'accord. À ceci près que si c'est le PSE qui l'emporte, leur candidat est Timmermans, c'est-à-dire quelqu'un qui poursuivra.
Candidat pour la présidence de la Commission.
Oui, pour la présidence de la Commission, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la même idéologie, qui poursuivra les mêmes politiques et la même vision de l'Union européenne que ce qui a été fait depuis des années. Donc il n'y aura aucun changement et c'est bien le problème absolu de ces élections, à savoir qu'elles donnent l'impression aux citoyens des différents pays européens que même s'il y a des choses importantes votées au Parlement, même si on peut voter l'interdiction de la pêche électrique, ça n'a l'air de rien, c'est fondamental, d'accord. mais la politique globale, la politique économique risque d'être la même.
Est-ce que malgré tout,
désaccord avec Natacha, quand même d'un mot. Là où c'est juste, c'est que si, par extraordinaire, et ce n'est plus impossible, les sociodémocrates arrivaient en tête au niveau européen, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une coalition de gauche et ça ne serait pas un changement fondamental. En revanche, si par hasard Franz Timmermans, à la suite de cette élection, devenait président de la Commission, en lieu et place de Manfred Weber, qui est le candidat du PPE, qui est un candidat non seulement allemand, non seulement CDU, mais un candidat de la CSU, c'est-à-dire de l'aile droite des démocrates chrétiens allemands. Eh bien, entre Barroso et Juncker, c'était pas la même commission. Et donc, entre Timmermans et Manfred Weber, ça serait pas la même commission. Donc, ça changerait pas radicalement, mais ça changerait quand même au-delà du marginalement.
Et ça, c'est quelque chose qui va se décider entre les chefs d'État, probablement, et les chefs d'État de l'Union européenne.
Oui, mais les électeurs ont leur mot à dire, parce que selon les résultats, eh bien, le choix des chefs d'État et de gouvernement ne sera pas le même.
Malgré tout, Natacha a raison quand elle dit que Franz Timmermans, c'est pas forcément un changement radical de politique dans la mesure où c'est le premier vice-président de la Commission européenne, premier vice-président de la Commission donc de Jean-Claude Juncker, et qu'il est prêt à des alliances avec les démocrates et les libéraux, donc avec le camp que rejoindraient les élus de La République En Marche, les élus de la majorité présidentielle française.
Mais enfin, regardons objectivement les choses. Vous n'aurez aucun parti n'aura à lui seul la majorité. L'Europe ne pourra être gouvernée que par des coalitions. C'est vrai au Parlement européen, mais ça va être encore plus compliqué à la Commission, parce que qui nomme les commissaires? Ce sont les chefs d'État et de gouvernement de chacun des pays. Et donc, dans cette commission, qui sera beaucoup plus difficile à piloter que la commission précédente, eh bien, les Hongrois, les Polonais, les Italiens nommeront un commissaire qui seront assez peu des commissaires progressistes.
Natacha.
Oui, il faudra faire avec. Du coup, on ne s'étonne pas qu'il y ait très peu de citoyens français qui se disent intéressés par ces élections, puisque quoi qu'il arrive, cette commission continuera à négocier des traités de libre-échange dans le dos des citoyens. Quoi qu'il arrive, cette commission refusera de mettre en place des protections aux frontières de l'Europe, de remettre en place la préférence communautaire. Donc tout ça ne changera rigoureusement rien à tout ce qui a fait que l'Europe est en train de se désindustrialiser, est en train de perdre est en train de paupériser ses classes moyennes. C'est tout ça qui est en jeu derrière.
Et je reprends malgré tout mon idée de référendum pour ou contre Macron. Écoutez le principal intéressé, le président de la République.
Ne vous laissez pas voler l'Europe. Ne vous laissez pas voler l'Europe. Moi, je pense très souvent à la jeunesse britannique. La jeunesse britannique, elle s'était désintéressée du Brexit. Elle a considéré que c'était pas son affaire, qu'une fois encore, la jeunesse, elle allait pas voter, etc. Et la jeunesse britannique, elle s'est réveillée le lendemain avec la gueule de bois.
C'est donc le président de la République qui s'exprimait depuis Sibiu en Roumanie pour dessiner l'Europe de demain. J'aimerais juste, avant de changer de sujet, qu'on s'arrête un instant sur cette question de référendum pour ou contre Macron, encore une fois. Est-ce que c'est pas finalement le moyen de mobiliser?
Si.
Mobiliser des électeurs qui traditionnellement s'abstiennent à ces élections européennes.
Je ne sais pas si c'est le moyen de mobiliser. En tout cas, c'est le moyen de mobiliser pour Emmanuel Macron ses propres électeurs. S'il réussit à faire en sorte que l'enjeu déterminant, principal, premier de cette élection, c'est de savoir qui arrive au niveau national en tête entre le Rassemblement National et La République En Marche, c'est un moyen de créer une sorte de vote utile et peut-être pour La République En Marche de repasser devant. Donc, dans une approche purement tactique, c'est un moyen de mobiliser son camp.
Natacha.
Oui, en effet, dans une approche purement tactique. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'est question du fond, des choix européens et de la possibilité d'appliquer ce qu'il y a dans les programmes de chaque liste. Parce que c'est ça le sujet.
C'est un autre problème, évidemment, mais de savoir quelles sont les compétences du Parlement européen et des parlementaires européens. Mais quand vous voyez arriver dans tous les programmes ou presque l'écologie, la préoccupation écologique, ça vous fait sourire, Natacha, ou c'est finalement qu'il se passe quelque chose dans le débat public et dans la vie politique en France, à savoir un changement de paradigme? Tous les partis aujourd'hui doivent tenir compte de cette préoccupation-là, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
J'ai envie de vous dire les deux. C'est-à-dire que oui, il y a un changement majeur de paradigme et on ne peut que s'en réjouir. C'est-à-dire que quand 80% des insectes ont disparu, on peut être soulagé de voir qu'en effet, ça fait enfin tilt dans la tête, non seulement d'ailleurs des politiques, mais des citoyens. C'est-à-dire que là, on ne peut plus éviter cette question-là. Sauf que il s'agit derrière de se poser la question de la responsabilité politique, des choix et de ce qui doit être fait pour essayer d'enrayer. Or, quand il s'agit du climat, là, c'est à peu près facile. C'est-à-dire qu'on a des États qui peuvent décider qu'on se réunit, on s'échange des droits à polluer, tout va bien. Voilà. La question de la biodiversité, elle nous oblige à réfléchir à notre modèle urbanistique, économique, notre modèle de développement. Et là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'économie d'un changement absolument radical.
Vous avez fait une remarque justement sur la manière dont le territoire français était bétonné.
Bien sûr.
Et c'est assez sidérant, mais rappelez les chiffres.
On a bétonné l'équivalent d'un département en 15 ans, un département entier. C'est-à-dire qu'on recouvre de goudron, on artificialise aujourd'hui un stade de foot toutes les 5 minutes en France et sur les meilleures terres, sur les terres arables. Pourquoi ? Parce que c'est autour des villes. Les villes se sont créées à l'endroit où les terres étaient bonnes. Donc quand on bétonne, c'est sur les meilleures terres. Dans 30 ans, ça se paiera en termes de capacité à nourrir les populations.
Gilles ?
Oui, il y a l'élément nouveau depuis maintenant quelques mois, c'est le fait que pour les citoyens, la question environnementale est une priorité majeure et notamment une priorité majeure pour l'Union européenne. Ce faisant, la plupart des listes, c'est pas vrai de toutes, mais disons sur un grand arc qui va de la France insoumise à la République en marche pour l'essentiel, on fait de la question écologique avec des différences entre elles, mais une question plus importante que cela n'était le cas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et donc de ça, je crois qu'on ne peut que se réjouir. La question derrière est de savoir quels sont les moyens que l'on y met, pas seulement les ambitions que l'on se fixe, et surtout de savoir jusqu'à quel point on est capable de remettre en cause à la fois un modèle économique et d'accompagner socialement cette transition, parce que ce que tous les événements récents ont montré, c'est que si on n'accompagne pas socialement, eh bien, il n'y aura pas de transition.
Un mot encore, mais, Natacha.
Souvenez-vous de la démission de Nicolas Hulot sur cette antenne. Il expliquait son constat que, selon lequel, tout simplement, la transition écologique n'est pas compatible avec le modèle économique de libre-échange généralisé, avec la division mondiale du travail qui existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces échanges-là impliquent une consommation des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, l'urbanisme, l'extension de l'urbanisme absolument partout, et ça a des conséquences sociales. C'est-à-dire, en effet, les deux sont liés, mais c'est simplement ce modèle de développement qui ne peut pas fonctionner. Or, est-ce que vous voyez dans certaines listes la remise en cause de ce modèle ? Non.
Gilles.
Ouais, sur la question de l'artificialisation des sols, je crois que les sols, c'est un des grands enjeux politiques du 21e siècle.
Bien sûr.
On ne peut pas se fixer comme objectif qu'il n'y ait plus aucune artificialisation. En revanche, on peut se fixer comme objectif, en France, qu'il y ait zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que dès qu'on artificialise un sol, on doit compenser en rendant du sol ailleurs. C'est une vraie révolution en termes d'aménagement du territoire, en termes de conception de l'urbanisme, avec un autre enjeu derrière qui est celui, c'est vrai en France, mais c'est vrai davantage encore ailleurs dans le monde, de l'accaparement des terres, de l'accaparement des sols, derrière lesquels il y a des questions de misère, d'injustice. Et c'est là où on voit que ces questions-là lient toujours un modèle économique, l'environnement et un modèle social.
Natacha, avant de tourner la page.
Fin 2017, il y avait au sein de La République En Marche un député, Patrick Vignal, qui se battait pour un moratoire sur les grandes surfaces. Il n'a pas été entendu parce que Bercy a expliqué que ce serait contraire à la liberté de commerce. Donc en 2018, il y a eu 931 000 mètres carrés supplémentaires de grandes surfaces en France, alors que nous sommes un des pays qui en a déjà le plus. Là, c'est une décision politique. Ça venait du camp de La République En Marche. Pourquoi ?
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
France Télécom a été un peu un laboratoire à expérimenter une politique violente, délibérée, pour supprimer 22 000 emplois sans plan social, sans négociation. On disait simplement, cassez-vous. Voilà, c'est cette violence-là qui était inacceptable. Il faut faire 22 000 suppressions d'emplois, coûte que coûte, par la porte ou par la fenêtre. C'est la phrase de Didier Lombard qui a résonné dans tous les services pendant très longtemps quand même. Alors, il y a des gens qui ont vraiment subi dans leur chair cette violence au point d'aller jusqu'au suicide.
Patrick Ackermann de Sud PTT, qui était le premier témoin à s'exprimer au moment du procès France Télécom. Sept prévenus, dont l'ex-PDG Didier Lombard, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de la vague de suicides de salariés entre 2007 et 2010. Cette information, c'est ce sur quoi vous vouliez insister cette semaine, Gilles. Pourquoi ?
Oui, c'est un procès hors norme. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40, y compris son ancien président directeur général, est poursuivie pour des faits de harcèlement moral. Et c'est, je crois, au-delà de la question juridique qui va être tranchée par le procès, l'histoire d'un dérèglement qu'il est intéressant d'analyser. France Télécom a été une entreprise qui objectivement s'est trouvée dans une situation difficile parce qu'elle était en proie à une série de mutations technologiques avec l'irruption du mobile, de changements statutaires avec la privatisation, de changements d'un cadre réglementaire avec la mise en concurrence, et elle a réagi très fort, les 22 000 suppressions d'emplois qu'on vient d'évoquer, et très vite, avec un horizon qui était très court. Ce faisant, des conséquences qui ont été extrêmement dommageables, et la question, je crois, qui est intéressante pour nous, est de savoir, c'est un dérèglement de quoi ? Est-ce que c'est un dérèglement du système ? Pour partie, oui, mais fondamentalement, je crois que c'est un dérèglement des hommes. C'est-à-dire que la manière dont France Télécom, à l'époque, a géré cette situation est fondamentalement à l'origine de ce qui s'est passé, et c'est plutôt réconfortant parce que ça montre que les hommes peuvent encore agir.
Natacha.
Je ne serais pas tout à fait sur cette position-là. Je pense que c'est un dérèglement aussi du système. En particulier, en majorité du système, dans le sens où c'est le système qui facilite la possibilité pour certains de concevoir les rapports sociaux de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est parce qu'on choisit de déréglementer, c'est parce qu'on choisit de libéraliser des services publics qu'on est obligé de le faire de cette façon, parce qu'on a en ligne de mire la performance, la concurrence, et c'est tout ça qui aboutit à ce que chacun, pour faire ce qu'il croit le mieux, oublie totalement, tout simplement, le facteur humain.
Alors qu'il y ait une responsabilité du système, je l'ai moi-même dit, et évidemment, qu'il n'y ait qu'une responsabilité du système, non. Parce que si tel était le cas, dans toutes les autres entreprises qui subissent la même concurrence, dans France Télécom devenue Orange aujourd'hui, eh bien, il y aurait exactement les mêmes difficultés que celles qu'on a connues. Or, le travail qui a été fait par les successeurs de l'équipe de Didier Lombard ont montré que d'autres relations sociales, un autre rythme de mutation était possible. Et quand vous avez aujourd'hui plus de 90% des salariés d'Orange qui disent être fiers d'appartenir à leur entreprise, ça montre que la manière dont on gère une entreprise, c'est important. Et que les difficultés aujourd'hui, et il y en a chez Orange, c'est moins des difficultés internes que des difficultés qui sont liées, pour le coup, à la concurrence du système.
Natacha.
Certes, mais à échelle globale, on s'aperçoit que la conception même que l'on a aujourd'hui de l'emploi et du travail, et ce sont deux notions différentes, a évolué, et que il y a une souffrance accrue dans la mesure où cette pression, ce rôle de la performance est en train de s'étendre absolument partout. C'est une logique, c'est une vision de ce qu'est le travail pour un être humain qui est en train de changer. Je pense qu'il faut en prendre la mesure.
Oui. D'un mot, la Fondation Jean Jaurès a fait, il y a quelques mois, une enquête sur la souffrance au travail.
Enfin, l'autopromo, je plaisante.
Surtout sur ce sujet-là.
Mais vous faites du bon travail.
Sur la souffrance au travail, octobre 2018, 1000 salariés actifs. Justement là-dessus. Et on l'a fait après que David Graeber a fait son livre qui s'appelait Les Bullshit Jobs. Ce sentiment d'inutilité que ressentaient 40% des salariés britanniques qui avaient le sentiment, alors même que parfois ils étaient bien payés, que ce qu'ils faisaient ne servait à rien. Et on a vu, si je le résume d'un mot, la conclusion, c'est que le problème des salariés français est moins un problème de sens. Ils trouvent que ce qu'ils font est utile pour la société, utile pour l'entreprise, qu'un problème de reconnaissance. 44% seulement d'entre eux ont le sentiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur.
Vous en avez parlé dans Marianne ?
Nous en avons parlé dans Marianne, bien sûr.
J'espère. C'était pour rétablir l'équilibre.
Voilà, je l'avais compris.